Bonjour à tous. Je ne peux pas commencer ce matin avant de dire un mot en hommage à Billy Graham, qui est parti rejoindre son sauveur cette semaine à l'âge de 99 ans. Alors, j'ai eu le plaisir de lire à cette occasion ce que les hommages des uns et des autres, et bon, peut-être les plus jeunes ne le connaissent plus, mais il a marqué beaucoup d'entre nous et le Seigneur l'a honoré en l'utilisant pour la conversion de beaucoup de personnes. Et je pense que tout pasteur et tout évangéliste se pose la question, quelle est la clé de son secret? Comment c'est possible? Et puis on imagine, il a utilisé les nouvelles technologies, il était particulièrement éloquent, on peut trouver toutes les idées qu'on veut, mais si on écoute ce qu'il dit lui-même, lui il dit, c'est le message. C'est son message. Et du coup, je vais vous donner son message. Et il était vraiment en avance sur son temps, parce que son message, il tient dans un tweet. Voilà le message de l'Évangile. J'ai un message, c'est que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, et il nous demande de nous repentir de nos péchés et de le recevoir par la foi comme Sauveur et comme Seigneur. Et si nous le faisons, nous avons le pardon de tous nos péchés. Voilà le message de Billy Graham. Voilà, ce matin, je sais que vous auriez préféré écouter Billy Graham, à tout point de vue, notamment par la longueur de son message. Et ce matin, j'aimerais aussi parler du message du salut, le dire avec des mots de la Bible, mais en termes dont on n'a pas l'habitude, c'est avec le langage biblique de la honte et de l'honneur. Et pour les cultures des peuples de la Bible, l'honneur est une notion très importante. Et donc, par conséquent, son opposé, le déshonneur, la honte, l'est aussi. Et Roland Muller, un missionnaire au Moyen-Orient, a introduit les termes des cultures de la honte pour catégoriser l'aspect dominant de beaucoup de sociétés aujourd'hui, qui sont aussi dites collectivistes, et qui représentent en fait la majorité de la population aujourd'hui encore. On peut considérer notamment beaucoup de peuples en Asie centrale, Moyen-Orient, en Afrique, et même en partie en Amérique du Sud. Alors juste pour compléter pour le reste, pour le monde occidental, Roland Muller a utilisé, pour aussi donner un nom, il parle des cultures de la culpabilité, où nous disons tout sous forme, est-ce qu'en transgression d'une loi, d'une règle, on est coupable et on a besoin d'être innocenté, d'être pardonné à nouveau. L'honneur. Je pense que c'est naturel à tout être humain de chercher, de rechercher l'honneur. On pourrait même dire que les hommes sont omnibulés par l'honneur. L'œuvre de Dieu est d'honorer tous les peuples, toutes les personnes. Et c'est une caractéristique principale de la mission de Dieu dans le monde qui est de restaurer son honneur, son rang d'honneur à la famille humaine. Et donc, il nous faut comprendre cet aspect de la mission de Dieu pour nous-mêmes, afin que nous nous joignions à Dieu, à cette mission, afin de bénir les peuples dans les cultures pour lesquelles cet honneur et cette honte ont tellement d'importance. Voilà, donc, je voudrais essayer ce matin de montrer que ces dynamiques de l'honneur et de la honte, en fait, sont partout dans les Écritures, et dirigent, même conduisent l'histoire du salut. Et donc, il nous faut commencer au début, lorsque la honte est entrée dans le monde, dans le jardin d'Éden. Donc, après avoir mangé du fruit, Adam et Ève se sont fait des pagnes avec des feuilles de figuier. Ils ne voulaient pas être vus. Et leur désobéissance au commandement de Dieu a créé la honte. Ils se sentaient indignes, ils étaient embarrassés, et ils ont cherché à couvrir leur nudité. Et lorsqu'ils ont entendu Dieu se promener dans le jardin, ils se sont cachés. Adam et Ève ressentaient un épouvantable sentiment d'inacceptation devant leur Créateur. Et donc, ils se sont retirés pour s'isoler en espérant que Dieu ne les verrait pas. Et je vous cite Dietrich Bonhoeffer, qui explique cette tragédie dans ces termes. L'homme réalise sa propre désunion avec Dieu et avec les hommes. Il réalise qu'il est nu. Ainsi, la honte surgit. L'homme est honteux de sa perte de l'unité avec Dieu et les autres. La honte est plus originelle même que le remords. Donc voici pour la citation. Donc le péché d'Adam et d'Ève ne les rend pas seulement coupables de transgression du commandement de Dieu, mais les rend aussi honteux de lui avoir été déloyal. Et là, pour Adam et Ève, la honte, c'était un sentiment, une émotion complètement nouvelle. Et dans le verset qui précède la chute, nous lisons, c'est juste le dernier verset de Genèse 2, « Tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. » Donc une caractéristique principale du paradis avant le péché, c'était l'absence de la honte. Adam et Ève se tenaient nus l'un devant l'autre et aussi devant leur Créateur, sans aucun sentiment de déficience ou d'infériorité parce que Dieu les avait créés de manière achevée. Ils étaient complets. Il les avait créés avec honneur. Il les a dotés d'honneur. Alors Jason George, et on peut voir la couverture de son livre qui me tourmente depuis quelques semaines, et donc du coup, vous le subissez ce matin. Donc il était missionnaire en Asie centrale. Il nous parle de son ami Kerbeck, avec qui il faisait une étude biblique sur Genèse 1 à 3. Au milieu de cette étude, il pose cette question. Quel genre de personne, pour voir s'il avait bien compris, quel genre de personne était Adam ? Et selon la leçon, il s'attendait à une réponse du type « c'est un être rationnel, doté d'une âme, d'un esprit, d'un corps ». Mais Kerbeck lui a tout de suite répondu « c'est un homme très honoré ». Adam est un homme très honoré. Et donc, étant issu d'une culture de type honneur et honte, il a intuitivement compris le grand honneur que Dieu a imputé ou a attribué à Adam, à la création. Dieu a béni Adam. Il lui a donné la terre à cultiver, de la nourriture en abondance. Il lui a donné l'autorité de nommer les espèces. Et il lui a donné une femme. Adam était comme un prince royal et qui était doté du prestige et du statut du roi. Et encore plus important, c'est dit un peu avant, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, ce qui sous-entend préséance et gloire. Dans le psaume 8, nous lisons, d'abord au verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Et un peu après, au verset 5, c'était avant le verset 5, au verset 5, il est dit « Tu le couronnes de gloire et d'honneur. » Voilà ce que Dieu a fait à la création pour l'homme. Et c'est pour ces raisons que Adam et Ève ne ressentaient aucune honte, même s'ils étaient nus. Mais malheureusement, la honte est entrée dans le paradis. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas juste une émotion privée, mais c'était une réalité publique, une réalité sociale publique. Ils ne se sentaient pas seulement honteux, ils étaient dans une position publique de honte devant Dieu. Nous avons l'habitude, en tant que chrétien, de mettre en avant la culpabilité plutôt que la honte, avec l'idée que c'est la culpabilité qui est le problème que nous avons devant Dieu, et que la honte, c'est plutôt devant les hommes. C'est-à-dire que c'est ça, la culpabilité, c'est le vrai problème théologique rencontré par les personnes séparées de Christ, et que la honte n'est qu'une anxiété que l'on peut traiter autrement. Mais je pense que ce texte nous montre que c'est aussi, la honte est aussi un problème théologique. Dans la Bible, la honte, c'est un aspect entier des relations brisées des hommes avec leur Dieu. Donc c'est un aspect du péché qu'il ne faut pas laisser de côté ou en retrait. Et donc dans Genèse 3, Adam et Ève ont perdu la face et leur statut devant toute la création. En étant des enfants non loyaux, ils ont perdu leur honneur. Ils ont été maudits avec la douleur, le labeur éreintant, la faiblesse et la honte ultime, c'est la mort. Les humains retournent à la poussière dont ils ont été tirés. En fin de compte, ils ont été bannis de la communauté de Dieu, exilés hors de la présence de Dieu. La famille humaine a perdu la face. Nous n'avons pas d'honneur devant Dieu. Et Daniel, au chapitre 9, verset 8, priera « Seigneur, à nous la honte sur la face, à nos rois, nos princes et nos pères, parce que nous avons péché contre toi. » Nous portons la honte aux yeux des hommes et de Dieu. Les hommes sont honteux en eux-mêmes et déshonorés vis-à-vis des autres. Et ce n'est que la moitié du problème. Parce que notre péché fait honte et déshonore Dieu, sa grandeur, son nom. Le péché est une atteinte à la personne de Dieu. C'est lui manquer de respect. Et Dieu n'est pas estimé à sa juste valeur. Sa gloire n'est pas respectée. Le péché entache la gloire de Dieu. Alors, je vais citer John Piper, toujours une référence ici. Lui aussi exprime le sens du péché en termes de déshonneur. Voilà ce qu'il dit. Quelle est la nature du péché ? C'est la profanation du nom de Dieu. En d'autres mots, ils n'ont pas vécu comme si les valeurs de Dieu étaient de suprême importance pour Dieu et pour eux-mêmes. Ils ont déprécié et amoindri Dieu. Nous avons souvent tendance à limiter le sens du péché à la transgression individuelle d'une loi ou d'une règle, mais les auteurs bibliques y voient également le contexte relationnel, par exemple le mariage, une alliance, et le péché brise les relations, et pas seulement transgresse les lois. Alors un théologien d'Asie, Simon Chan, donc lui aussi il est issu d'une culture de type honneur et honte, il dit ceci, dans le contexte familial, le péché n'est pas juste le tort qu'un individu fait contre une loi objective, c'est un affront à l'honneur de Dieu et un acte qui déshonore le nom de la famille. Le concept du péché exprimé en termes de honte implique que le péché n'est pas contre une loi impersonnelle, mais contre une communauté dont le pécheur est membre. Et cela brise l'harmonie de la communauté. Alors on va appliquer ça simplement entre notre relation avec Dieu. Ça veut dire que l'essence du péché, c'est de déshonorer Dieu. Le péché, c'est de ne pas être loyal à une relation. Et le problème d'Israël, on peut lire ça au psaume 78, au verset 37, c'est que leur cœur n'était pas solidement attaché à lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. Et c'est cela qui a amené le déshonneur sur Dieu. En Malachie 1, verset 6, « Un fils honore son père, un serviteur son maître. Or, si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est le respect qui m'est dû ? Vous déclare le Seigneur de l'univers. À vous, les prêtres qui méprisez mon nom. Et illustrons avec un exemple beaucoup plus connu encore. Vous vous souvenez du récit où Nathan le prophète a confronté David après son affaire avec Bathsheba, la femme d'Uri. Nathan, à travers l'histoire qu'il va raconter, va exposer le péché de David en termes de conduite honteuse. Notre lecture habituelle de cette histoire est de reconnaître David coupable d'avoir violé la loi et de manière évidente, même plusieurs des 10 commandements. Et nous sommes rapides à compter. Dans l'ordre, David a commencé à enfreindre le 10e commandement. Tu ne convoiteras point. Ensuite, le 7e, tu ne commettras point d'adultère. Ensuite, le 6e, tu ne tueras point. Mais Nathan, il ne mentionne pas la loi. Il cite bien sûr le mal que David a fait, mais ce qu'il fait ici, il dénonce le comportement de David comme étant absolument honteux. Tout d'abord, il identifie David dans une des scènes, dans cette histoire, dans une des scènes les plus honteuses qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire un homme riche qui est inhospitalier et qui refuse de partager avec un invité. Mais beaucoup plus grave, le comportement de David fait honte à Dieu. Et 3 fois dans l'histoire, Nathan, en parlant de la part de Dieu, il va dire que David a méprisé, qu'il s'est moqué, qu'il a gravement offensé le Seigneur. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans Malachie, ici, c'est appliqué à David. C'était pour les prophètes, ici c'est pour David, il a offensé le Seigneur. Pourquoi m'as-tu méprisé ? Tu t'es moqué de moi, tu m'as gravement offensé. Donc le péché de David était avant tout contre Dieu et contre son honneur. Et comment a-t-il méprisé ? Il a laissé tomber les promesses de Dieu que Dieu lui avait faites juste avant. Dernier point, et pas dernier point sur le péché, parce que j'aurais préféré ne pas en parler du tout, mais c'est important. Voilà Genèse 3. Dernier point sur ce sujet, c'est Genèse 4. Genèse 3 nous montre que le péché produit la honte. Genèse 4 illustre son contraire. La honte cause le péché. Lorsque Caïn et Abel apportent leur offrande au Seigneur, il est dit que le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Et en conséquence, Caïn montra un visage abattu. Caïn a été négligé, ignoré, mais on voit que Dieu lui offre la possibilité de retrouver la reconnaissance, l'acceptation, lorsqu'il lui a posé la question « Ne relèveras-tu pas ton visage ?» Dieu voulait le reconnaître, voulait lui donner sa place. Mais Caïn, lui, est resté sans espoir de pouvoir relever sa honte. Son envie d'être le premier, son envie de position, de statut, le conduit à tuer son frère, dans un effort de retrouver le respect. Caïn tue son frère à cause d'un sentiment d'infériorité, de réprobation. Sa honte a donc conduit au péché. Et les descendants de Caïn, ils ont aussi répondu au déshonneur par de violentes représailles. La généalogie de Caïn, elle finit avec Lamech, qui se vante devant ses 2 femmes, en Genèse 4, verset 27. Il va dire « Pour une blessure, j'ai tué un homme, pour une meurtrissure, un enfant. » C'est là le langage de la honte et de l'honneur qui dit « Nul ne s'en tirera s'il me manque de respect. » Le péché cause la honte, et là, on vient de voir que la honte cause le péché. C'est la spirale de la mort. Et malheureusement, cette réalité pèse sur l'humanité depuis ce jour. Et là, les exemples ne manquent pas. On a parlé de Goliath il n'y a pas longtemps. Après la victoire de David sur Goliath et les Philistins, qu'est-ce qui s'est passé ? Les femmes d'Israël sont sorties pour célébrer la victoire en chantant. Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül, le roi, qui avait tout l'honneur qu'il fallait, il s'est senti déshonoré et il s'est mis à regarder David avec jalousie et envie, et ce qui l'a conduit à vouloir le tuer. La honte de Saül l'a conduit au péché. Je vous raconte une anecdote. En 2003, un jeune Irakien d'Al-Qaïda, il a foncé contre le bâtiment des Nations Unies à Bagdad avec son camion, il l'a fait exploser, et il a détruit le bâtiment et il a tué 22 personnes. Lorsque le porte-parole d'Al-Qaïda a ensuite expliqué la logique de cette attaque suicide, il a utilisé les termes de la honte. Voilà ce qu'il a dit en parlant pour ce jeune qui a jeté son camion contre le bâtiment. « Quand les Américains sont venus, ils ont marché sur nos têtes avec leurs chaussures. Alors comment pensez-vous que nous allions réagir ? La mort est plus honorable que la vie. » Donc pour ce jeune Irakien, des sentiments intenses de disgrâce l'ont conduit à la destruction et au meurtre. Ce péché violent de l'attentat suicide était une réponse à la honte insupportable. Et ces actions destructives du terrorisme, mais bien d'autres actions, j'en cite quelques-unes, de moins en moins graves, il y a aussi l'ethnocentrisme, l'exploitation, la violence. Mais si tout ça ne nous concerne pas, j'ajouterai aussi le commérage, ce que nous disons les uns des autres. Dans tout ça, lorsque l'honneur est obtenu par comparaison, la supériorité signifie l'abaissement d'un autre. Et nous fabriquons un honneur relatif en déshonorant les autres. En fait, nous transférons notre honte. Et c'est un bien grand mal. Donc voilà ce premier point que j'appellerais le visage de la honte. J'aurais préféré être plus court, mais il m'a semblé important de le donner entièrement. Mais la Bible, on est qu'en Genèse 4, heureusement. Qu'a fait Dieu après la chute ? En fait, seule une relation avec le vrai Créateur nous confère le vrai honneur, celui dont tout être humain a besoin. Et dans la Bible, par la suite, c'est par des alliances que Dieu a formées avec les hommes qu'il répond à ce besoin. Pourquoi des alliances ? Parce que c'était ainsi que fonctionnaient les cultures du Proche-Orient dans le temps ancien. Les alliances représentaient des arrangements contractuels qui établissaient des relations de type familial. Les deux parties devenaient membres de la famille, liées par l'honneur, les deux côtés s'engageant par promesse solennelle d'honorer l'autre partie. Et la honte, c'est la conséquence de ne pas agir de cette manière. Et les réputations publiques des deux parties étaient imbriquées. Donc Dieu accorde sa propre splendeur et gloire à son peuple par des alliances. Et dans ses alliances avec Abraham, avec Moïse et David, Dieu promet de protéger, d'exalter son peuple en échange de sa loyauté et de sa louange. Et donc la relation que Dieu a initiée avec son peuple d'Israël a vaincu la honte et restauré l'honneur. Et on retrouve ce message à travers de nombreuses histoires de l'Ancien Testament. En fait, aujourd'hui, on reste dans l'Ancien Testament et on voit de nombreux récits où on voit Dieu intervenir dans la vie des hommes pour les sauver, pour les restaurer. Et pour nous aider à bien lire ces histoires, je voudrais citer Timothy Lagnac, qui classe, donc un professeur d'Ancien Testament, qui classe les histoires de salut dans l'Ancien Testament selon deux modèles qui peuvent nous aider à bien lire ces histoires. Et les reconnaître va nous aider à mieux comprendre les récits bibliques. Alors, ce sont deux schémas, je vais vous montrer le premier. Ce premier récit suit le modèle culpabilité-innocence, qui est le modèle habituel par lequel nous lisons toute la Bible. Et là, ce sont des récits qui commencent avec une personne innocente qui transgresse une règle ou une loi, et pour ôter la culpabilité liée à leur faute, une réparation est exigée. Et une fois la punition endurée et la repentance pour le mal faite, le pardon est accordé et la vie normale peut reprendre. Et donc le but recherché dans cette structure narrative, c'est de ramener celui qui a transgressé la loi, la ramener dans son état originel d'innocence. Et comme exemple qui s'applique, on peut penser à toutes les histoires du livre des juges. Lorsqu'il y a eu péché, Dieu a envoyé un juge qui les a ramenés, qui a sauvé le peuple. Il y a Déborah, il y a Gédéon, il y a Samson. Ce sont des histoires qui rentrent très bien dans ce schéma. Et donc, elle est utile pour cela. Par contre, elle ne s'applique pas, ce schéma ne s'applique pas à toutes les histoires. Et alors, je ne vais pas la raconter, mais je vous invite à penser à l'histoire de Naomi de Ruth, histoire que nous aimons bien, que nous avons lue et sur laquelle vous avez entendu des messages ici. Mais en fait, pour Naomi et Ruth, ce schéma ne correspond pas. Et comme nous aimons bien toujours coller à des schémas, certains suggèrent même que quel est le péché que la famille de Naomi a commis pour qu'il soit dans cette situation, alors que le récit ne nous indique pas, ne nous invite pas à penser dans ce sens. Et donc, quand on lit tout en rapport au pardon de nos transgressions, parfois on peut rater des points importants dans une histoire. Et donc, je vous propose ce matin un deuxième schéma, enfin, c'est Timothy Lagnac qui le propose, qui est le schéma narratif de la honte vers l'honneur. Et là, vous avez le schéma. Vous avez un peu en tête l'histoire de Ruth. Alors pensez, l'histoire de Ruth, comment est-ce qu'il peut coller à ce schéma ici? Le message ici, de ce type de récit, c'est que Dieu inverse le statut, la position sociale de son peuple, et Naomi et Ruth sont sauvés de la honte et élevés dans une position d'honneur. Alors, je vous donne la façon générique de lire, et pendant que je le lis, vous pensez à l'histoire de Ruth et de Naomi. Donc, le récit commence en montrant les personnages dans une situation respectable, c'est leur statut ici, mais alors que l'histoire progresse, leur statut est menacé et la honte semble imminente. Leur statut peut être mis en danger par le péché personnel ou par des facteurs extérieurs, tels une maladie de la peau, ou une invasion militaire. Et suite aux cris de détresse des Israélites demandant le secours divin, Dieu élimine la menace de honte et défend leur honneur. Dieu inverse leur position sociale. Et ces récits se terminent avec un accroissement de l'honneur des personnages principaux et pas seulement un retour à l'état initial. D'accord ? Le honneur, il est plus haut qu'au début. Et ce schéma structure l'histoire de Ruth. Alors que Naomi jouissait d'un statut respectable au pays de Moab, elle a été soudainement menacée de honte par la mort de son mari et de ses fils. Mais ensuite, en lisant l'histoire, on voit que Boaz, par Boaz, Dieu exalte Naomi et Ruth, de la position de honte vers celle de l'honneur. Bien sûr que Naomi et Ruth étaient des personnes pécheresses et avaient besoin du pardon de Dieu. Mais le message principal du livre, c'est leur exaltation de leur position de honte et la révélation d'un Dieu qui honore son peuple. Et donc ce schéma, honte vers l'honneur, il illustre le salut de Dieu dans la vie de nombreux personnages de l'Ancien Testament. J'ai une longue liste ici qui est loin d'être exhaustive et je vais citer trois. J'en ai surligné trois. Je pense à Léa, la femme de qui ? De Jacob. Léa, l'épouse qui n'était pas aimée, selon les Écritures. Elle a donné naissance aux quatre premiers fils d'Israël. Dieu l'a honorée en répondant à ses prières pour lui permettre d'avoir ses fils. Elle voulait ainsi gagner l'amour de son mari. Mais finalement, quand Judas est né, son quatrième fils, elle s'est écriée « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur ». Elle a compris que sa position, sa valeur, lui était donnée par Dieu et en retour, elle l'a honorée par sa louange. Autre exemple, c'est Joseph qui était dans un puits, près de mourir. Et plus tard, on le voit placé sur le trône d'Égypte. Pense aussi à Anne. Alors, dans le début de Samuel, j'ai oublié le nom de son mari. C'était une femme stérile et elle a donné naissance à Samuel, alors qu'elle, en réponse à la prière, qui est devenue ce grand leader en Israël. Et bien sûr, ce schéma correspond très bien au livre de Job, à l'expérience de Job, qui a été à un moment un malade rejeté et qui ensuite a été rétabli dans sa santé et sa communauté. Et le dernier, sur lequel j'aimerais m'arrêter un peu plus, c'est Méphibosheth. Une règle fondamentale dans les cultures de la honte, c'est que les personnes ne peuvent pas se sortir eux-mêmes du puits de la honte. Elle ne peut être enlevée qu'à l'initiative d'une autre personne, d'un statut ou d'un rang plus élevé. Et Jason George, donc l'auteur de ce livre, ce missionnaire, donc en Asie centrale, il a posé cette question. Comment une femme divorcée pourrait-elle diminuer sa honte pour être considérée comme acceptable pour le remariage? Et la réponse était, elle ne peut rien faire par elle-même. Il faut qu'un autre homme décide de l'accepter et de la prendre. En fait, un paria, quelqu'un qui est banni de la société, ne peut pas s'inviter lui-même à la fête. Et l'histoire de David avec Méphibosheth va nous donner un exemple où la grâce enlève la honte. Et on va le voir parce que ça reflète la nature de la grâce de Dieu. C'est lorsque David a été établi dans son règne sur tout Israël, il a cherché une occasion pour bénir la famille de Saül. Il se pose cette question, existe-t-il encore un survivant de la maison de Saül pour que je puisse le traiter avec fidélité en souvenir de Jonathan? David, il venait d'être devenu important, même célèbre. Et il cherchait ici une occasion pour manifester son aide à la famille d'un ami loyal. Et donc David prend connaissance de la situation de Méphibosheth, le fils de Jonathan. Mais celui-ci, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait s'attendre à l'aide ou à l'honneur venant de David. Bien au contraire, Méphibosheth y portait la honte et aussi le risque d'être le petit-fils de Saül. Et dans les anciennes cultures de l'honneur et de la honte, la loyauté à la famille était sous-entendue, évidente. Et le pouvoir politique, lui, était hérité. Ainsi, pour éviter que des prétendants rivaux revendiquent le trône, une fois que les rois étaient en place, ils annihilaient, bon, bref, ils détruisaient la famille du roi vaincu. Et donc, en tant que descendant de Saül, Mephibosheth s'attendait à ce que David l'exécute et par là renforce sa gloire royale à travers Israël. Mais pour Mephibosheth, ce n'était pas sa seule source d'inquiétude et en tout cas de honte. Ce n'était pas sa plus grande honte. Mephibosheth était aussi sévèrement handicapé. La première référence à lui ne mentionne même pas son nom. Il est uniquement cité comme le fils de Jonathan, perclus des deux pieds. C'est son handicap physique qui le définissait. La société le voyait comme déformé et déficient. Et ses pieds estropiés le stigmatisaient. Et c'était une cause d'exclusion dans sa communauté d'Israël. Toute personne avec une imperfection physique, par exemple un membre déformé ou cassé, ne pouvait pas faire de sacrifices ou participer aux fêtes dans le temple. Et de son côté, David a maintenant atteint le sommet de l'échelle sociale. Il est respecté et craint par tous à ce moment de sa vie. Dans les chapitres précédents, au chapitre 6 de Samuel, David a rétabli la présence de Dieu à Jérusalem. Il a amené l'arche, merci. Et il a établi une alliance éternelle avec son Dieu dans la prière. Et c'est ces promesses-là qu'il a rompues lorsqu'il a péché. Et ses succès militaires au chapitre 9 sont légendaires. Il a battu tous ses ennemis. Il a donc établi son gouvernement sur tout le pays d'Israël. Et au sommet de sa grandeur royale, il invite le petit-fils handicapé de son ennemi juré dans son palace. En entrant dans la présence de David, Mephibosheth tombe face contre terre et se prosterne et plaide « Qu'est-ce donc que ton serviteur pour que tu tournes ton visage vers un chien crevé comme, tel que moi ?» Et cette étiquette qui se donne lui-même de chien crevé montre qu'il était très conscient de la bassesse de son statut. Il ne peut pas effacer la honte. Mais à partir de là, ce que David va faire va renverser complètement le statut de Mephibosheth. David va agir gracieusement pour rétablir Mephibosheth à une place noble, honorable à Jérusalem. La première chose qu'il fait, c'est de lui transférer tous les biens matériels de son père Saül. Et c'est une action étonnante, parce qu'on pouvait bien penser que David s'accapare tous ses biens pour sa propre famille, mais il l'a fait pour Mephibosheth. La deuxième consiste à prévoir le long terme pour Mephibosheth. Il va ordonner à Siba, qui est le serviteur principal de Saül, qui avait 15 fils et 20 serviteurs, de cultiver les terres pour que Mephibosheth ait toujours de quoi manger. Et donc, avec les possessions de Saül et les serviteurs de Mephibosheth, il allait pouvoir vivre une vie digne, une vie honorable. Mais il y a encore beaucoup plus important. David va dire, au verset 10, « Il prendra tous ses repas à ma table. Manger avec le roi, ne serait-ce qu'une fois comme invité, aurait conféré un grand honneur à tout Israélite. Mais manger régulièrement à la table du roi, ça signifie que Mephibosheth, c'est comme l'un des fils du roi. De chien crevé à fils royal à la table du roi. Quel renversement de situation! C'est presque plus grand encore quand on pense que l'histoire de David lui-même, qui est un garçon berger, qui devient le grand roi d'Israël. L'action gracieuse de David allège la honte de Méphibosheth et lui donne un nouveau statut. Celui qui a l'honneur agit vers celui qui est dans la honte. La grâce de David reflète la nature de la grâce de Dieu envers son peuple. Devant Dieu, nous sommes dans la honte, et ainsi notre seul espoir d'enlever la honte et de restaurer l'honneur nous vient de Dieu. Lui qui est assis en haut sur le trône et qui descend vers nous. Notre Dieu est le vrai roi qui nous élève de notre honte et nous offre une nouvelle identité. C'est cela la bonne nouvelle. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Et David le savait bien, les moyens culturels de la nourriture et de l'hospitalité confèrent l'honneur, peut-être même plus que des mots. Et c'est pour ça que les Écritures utilisent très souvent les images de la nourriture et de l'hospitalité pour communiquer notre statut spirituel comme hôte invité par Dieu. Le langage de la fête et de l'hospitalité transmet une part d'honneur dans les Écritures. Et nous l'avons lu ce matin, on l'avait entendu déjà ce matin, « L'Éternel est mon berger » et au verset 5 et 6, « L'Éternel est aussi notre hôte et nous sommes ses invités. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Et les références à ce genre de fête dans la Bible sont nombreuses. Et pour voir à quel point c'est extraordinaire ou scandaleux, une dernière anecdote de Roland Müller, donc ce missionnaire cette fois-ci au Moyen-Orient, il avait un ami jordanien, un jeune jordanien qui découvrait la Bible. Et il nous raconte ce qui s'est passé au moment où ce jeune a lu 1 Samuel 2, verset 8. Il est dit « De la poussière, Dieu relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. » Lorsqu'il a entendu cela, Mohamed a jeté la Bible sur la table et s'est exclamé « Non, ce n'est pas possible, cela ne peut pas être vrai. Un mendiant, c'est un mendiant. Un prince, c'est un prince. » C'est fou ce que je lis là. Et cette protestation vive de ce jeune homme, qui naturellement en fait réagissait avec les réalités de l'honneur et de la gloire qu'il connaissait dans sa culture, ça illustre bien la nature scandaleuse de la grâce de Dieu envers celui qui est humilié, celui qui subit la honte. Et donc ce renversement merveilleux de statut de la honte vers l'honneur, on peut ne pas le comprendre, il est tellement extraordinaire, insondable, mais, et c'est ça notre bonheur, il est commun dans le royaume de Dieu. Dieu le fait pour chacun. Et mon dernier verset, il y en a eu beaucoup aujourd'hui. « Le Seigneur s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. » Amen.